Écoute locale avec Cheese 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
Bonjour et bienvenue à tous à des Kiwi des Nerds, l'émission la plus fruitée de la Nerderie. Je vous souhaite un bon midi à tous. D'abord, bienvenue à Mick, qui va être un de nos chroniqueurs, je crois, récurrents à l'émission dans les prochaines semaines. Je me présente, je suis votre nouvel animateur, Jérémy Thibault, en remplacement du très regretté Alex Boutet, qui, on le souhaite, refera un tour parmi nous prochainement. Comment ça va, Mick?
Ça va très bien, toi?
Ça va magnifiquement bien. Je dois t'avouer que j'avais extrêmement hâte de pouvoir reprendre l'émission radio. J'en ai des souvenirs qui sont juste incroyables. Je l'écoutais déjà beaucoup à l'époque avant de commencer un peu à être chroniqueur. Puis j'étais même pas au courant, en fait, que je l'écoutais. Donc, c'était quand même assez spécial lorsque j'avais été invité pour la première fois par un des anciens Kiwi, donc Louis Dionceau, que tu connais. Ça m'avait fait quelque chose d'un peu spécial. Donc, comme tu le sais, je suis un grand nerd. Et pour me présenter rapidement, je suis animateur de Donjons et Dragons à temps plein. C'est ma profession, nerd depuis mes 12 ans. Je joue aux jeux vidéo, jeux de société. Bref, tout ce qui va toucher à ça, je connais. Et toi, Mick, comment ça va?
Ça va très bien.
Je l'ai déjà mentionné. Excusez-moi, il se peut que je bafouille de temps à autre. Donc, pour continuer, aujourd'hui, Mick va nous parler de ses premières expériences dans le monde du jeu vidéo. Toi, initialement, Mick, tu étais dans l'industrie du cinéma. Avant ça, l'industrie de la musique, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il y avait...
Et de la littérature aussi, en fait. Moi, je suis un créateur... Je suis plus qu'un artiste, je suis un créateur, donc tout ce que je touche devient une création. Mm-hmm. Et puis comme je fais du gaming depuis que je suis tout petit, depuis un an à peu près, je me forme sur la plateforme Unity pour programmer mes propres jeux vidéo. Puis je me suis aperçu que c'est un univers fantastique quand on embarque là-dedans.
Mais qu'est-ce qui a provoqué ce revirement? Est-ce que tu continues encore de toucher aux autres arts parce que tu es un artiste multidisciplinaire?
Exactement. Puisque je fais du développement de jeux vidéo, ça me permet là, de rapatrier toutes mes arts dans un seul médium qui est le jeu vidéo, parce qu'on le sait, il y a du son dans un jeu, mm-hmm. Il y a du script aussi, il y a des portions de vidéo, donc forcément, ça me permet là, vraiment d'être un convecteur de toutes mes passions.
Tout à fait, le jeu vidéo est le 8e art et il combine à la fois le cinéma, on le sait, il y a beaucoup de jeux qui sont narratifs, c'était d'ailleurs la marque des jeux, des très regrettés jeux Telltale. Il y a aussi beaucoup d'aspects musique, donc j'en conclus que, parce que tu es en train de fabriquer un jeu en ce moment.
Oui, tout à fait, j'en fabrique un qui va être à plus long terme, que j'ai appelé Age of Flynn. Et puis, présentement, je suis en train de développer des petits jeux pour sortir des choses avec ma boîte Pixel Mic Studio.
Parfait. Donc, si tu veux, on va pouvoir commencer sans plus attendre ta chronique dont on avait si hâte d'entendre parler.
Parfait. Donc, c'est parti. Donc, mais alors, Mick, t'es qui, toi, me direz-vous, avec une face à la robe dans le 5e élément?
Ben, comme je l'ai déjà dit, je suis un créateur qui touche la musique, la littérature, le cinéma, depuis peu, le domaine du développement des jeux vidéo. Dans toute histoire, il y a un début, et pour l'instant, la mienne est comme le livre, le titre de l'œuvre littéraire, une histoire sans fin, parce que pour l'instant, il n'y a pas de fin à ça. Donc, avant de poursuivre, je te demanderais, Jérémy, à quand remonte ton premier contact avec les jeux vidéo? Ton premier jeu vidéo, quand tu as vu ça, qu'est-ce que ça t'a fait?
Mon premier contact, vous allez l'apprendre assez vite, je suis assez jeune. Mon premier contact avec les jeux vidéo, je crois, était sur la PlayStation 2. C'était le premier jeu Harry Potter. Je me rappelle, à l'époque, j'avais capoté sur les films. Je trippais au bout de moi un univers de magie. J'attendais ma lettre pour aller à Poudlard tous les jours.
Oh wow.
Puis lorsque ma mère m'a acheté ce jeu-là, j'étais en émoi. Là. C'était une effervescence incroyable.
Cool. Ben moi, je vais te raconter ma première expérience avec un jeu vidéo, d'où c'est parti, puis jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, pourquoi j'en crée. Donc, pour ma part, je vous invite à embarquer dans la DeLorean pour un retour dans les années 80. Étant né en 82, soit juste un an avant la sortie du premier Super Mario Bros., ma première rencontre avec des pixels animés et contrôlés par l'utilisateur fut dans une salle d'ordinateur de mon école primaire. Une salle remplie de vieux Commodore 64. Puis quand je dis Commodore 64, ça n'a rien à voir avec la Nintendo 64. Là. C'était des grosses disquettes. Puis, donc, une salle sombre, sous-utilisée, car dans toute l'école, il y avait juste un enseignant qui savait comment faire fonctionner des ordinateurs. Donc, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, donc ça remonte à loin, mon affaire. Mm-hmm. Je me souviens que... pour avoir accès à cette salle-là, il fallait avoir le privilège d'être dans les meilleurs de la classe. Donc, c'était réservé à une élite. C'est drôle de penser ça alors qu'aujourd'hui, tout le monde a des jeux vidéo dans les mains. Donc, c'est quand même assez drôle. Et j'étais heureux d'en faire partie de cette élite-là. Dès lors, je me suis familiarisé avec les fameuses disquettes. Pas les petites, les grosses. Et justement, l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué était un jeu de quilles. Suivi de près par ce fameux jeu où tu es un barman, puis tu envoies des bières à tes clients, puis il faut pas que les bières tombent à terre.
Un jeu qui a été mis sur Miniclip à l'époque, je crois.
Oui, ça se pourrait. C'est pour vous dire comment personne dans cette école connaissait le contenu des jeux. Donc, avoir ça dans une école primaire, servir de la bière, c'était quand même drôle. C'était la première rencontre du troisième type que j'appellerais, c'est-à-dire ma rencontre avec les ordinateurs, mais aussi avec les jeux vidéo. Donc, un ordinateur, somme toute, à l'époque, c'était passif, on tapait du texte, etc. Mais avec la venue des jeux vidéo, ça rendait... l'expérience, comment dire, c'est toi qui contrôlais l'ordinateur. Donc, ça te donnait un nouveau pouvoir que, jusqu'alors, ça n'existait pas, ce genre de pouvoir-là. Mm-hmm. Puis ça donne aussi un pouvoir d'immortalité, en ce sens que le jeu vidéo, on peut le recommencer autant de fois qu'on veut. Donc, c'était quand même, somme toute, quelque chose. Donc, c'est juste quelques années plus tard que j'ai pu me reconnecter avec le monde des 1 et des 0 alignés. Mes parents m'avaient fait garder chez un de mes amis. On va l'appeler Carl. Puis Carl, lui, il avait une Nintendo, une NES. Donc, il y avait une Nintendo avec Super Mario Bros. Puis aussi, je me rappelle, de Contra 1. Et puis, il y avait aussi un genre de Mario Maker, mais vraiment moins évolué que ce qu'on a aujourd'hui, évidemment. Et puis moi, je trouvais que lui, il réalisait pas toute la chance qu'il avait d'avoir une console de jeux vidéo. Je veux dire, moi, je rêvais de tout ça, puis aussitôt j'entendais le son tchitching des scènes de Mario Bros. À chaque fois, là, ça me faisait vibrer, puis je capotais sur cet univers-là. Donc, et puis après ça, plus tard, je me suis dit, ça me prend une console. Puis là, je m'invitais chez les amis qui avaient des consoles pour pouvoir jouer. Je sais pas si toi, t'as déjà connu ça.
J'ai connu ça, là. Il y a eu une époque où j'avais pas accès à la Xbox 360. Et un de mes amis l'avait. Il y avait d'ailleurs tous les jeux auxquels je voulais jouer. Et donc, je m'invitais de temps à autre chez lui. Ça a d'ailleurs été, je crois, une de mes premières expériences avec les RPG, hormis Super Mario Bros. Sur la 64, je crois. Mais tu peux continuer donc.
Donc, dès lors, là, je savais que j'assistais à quelque chose du futur. Je me disais, ça, là, ça va évoluer. Ça va évoluer à un point là, que aujourd'hui, là, on n'a même pas idée jusqu'à quel point ça va aller.
Exact, le futur, il t'a donné raison. Là.
Exactement. Et puis aujourd'hui, on a des jeux tellement réalistes que c'est bluffant. On s'y croit, c'est de l'immersion totale. C'est des graphismes à couper le souffle. C'est des univers... où est-ce qu'on peut se perdre, là, vraiment?
Tout à fait. Il y a des jeux qui ont même carrément la qualité de film. On pense notamment à Death Stranding, le dernier Hideo Kojima. Ce jeu-là, c'est une expérience cinématographique, là, au final, quand on la regarde. La plupart des gens qui regardent des let's play, au final, j'ai pas l'impression qu'il manque tant que ça au niveau de l'expérience. Même s'il y a, une différence au niveau de l'interactivité.
Tout à fait. Et puis... pour poursuivre mon épopée dans cette découverte-là, les années passèrent et puis j'ai bien fait d'attendre et de pas acheter une NES parce que la SNES, la Super Nintendo, venait d'arriver. Puis je me souviens que ma mère, elle avait couru les magasins pour en avoir une. C'était la grosse mode. Tout le monde voulait la Super Nintendo parce que là, les gens venaient de découvrir la Nintendo avant, puis adorait la Nintendo, il se disait, oh, la Super Nintendo, ça va être super, justement. Mm-hmm. Donc, je me souviens que à Noël, là, je pensais pas l'avoir, puis quand je l'ai déballé, j'ai dit à maman, OK, là, vous pouvez arrêter les cadeaux, j'ai eu mon cadeau, je suis satisfait, maintenant, vous pouvez arrêter de me donner des cadeaux à Noël, j'ai ce que je voulais, une Super Nintendo. Bon, après coup, j'ai un peu regretté parce que j'ai continué de demander des cadeaux parce que ça me prenait des cassettes pour jouer. Mm-hmm. Juste une console, je pense qu'elle venait avec Mario All-Star. Donc, j'avais les quatre Mario.
Est-ce que tu avais aussi vécu, moi, à l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre comment ça fonctionnait, tu regardes. Est-ce que tu as aussi vécu l'expérience de faire offrir le jeu vidéo, la console, mais pas la carte mémoire pour sauvegarder, donc de devoir recommencer le jeu ad vitam aeternam?
Non, j'ai pas vécu ça parce que à l'époque, les cassettes sauvegardaient dans les cassettes. Donc, c'est quelques années plus tard qu'est venu PlayStation, je pense, avec la capacité là, de la sauvegarder sur une carte mémoire, tout à fait. Donc, moi, j'avais quand même cet avantage-là. Surtout que moi, j'étais déjà, dès lors, un joueur hardcore, c'est-à-dire que moi, je devais passer chacun des jeux que je jouais. Je pouvais pas ne pas aller jusqu'à la fin, avoir fait le tour.
Mais surtout, sachant qu'à l'époque, les jeux étaient plus difficiles, disons-le comme ça. Après tout, il y a même un YouTuber du nom du Joueur du Grenier qui en parle, qui en a fait son métier. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo que tu as passé des semaines et des semaines à essayer de compléter?
Tout à fait. Il y a des jeux vidéo où ce que le temps de base de jeu que tu dois faire avant d'arriver à la fin était vraiment élevé, là, du 40-60 heures. Comparativement, aujourd'hui, ça tourne autour d'un 10-12 heures, je dirais, la plupart des jeux. Mm-hmm. Évidemment, là, il y a aujourd'hui, il y a les succès qui rallongent les jeux. Donc, si tu veux vraiment avoir complété tout le jeu, il faut t'être tué sans créature, t'es fait ci et mm-hmm. ça. Mais à l'époque, je me souviens que ouais, j'ai appris à sacrer avec les jeux vidéo, disons, pour être poli, là, parce que des fois, c'est très rageant de rater la marche d'un pixel près. Là.
Ça, c'est, j'ai l'impression qu'il y avait un jeu en tête. Là. Est-ce que tu peux dénoncer ce jeu-là?
Je me souviens d'un Super Mario Bros qui était Lost Level, entre autres. Là.
Okay.
Lost Level, dans le fond, c'est que ça reprenait les bases de Mario Bros, donc les bases des mêmes tableaux, mais avec des ennemis plus difficiles, des sauts plus périlleux, donc puis des fois des mauvais champignons, je pense, là, que si tu les attrapes. Donc, c'était vraiment pour ceux là, qui avaient fait le tour des autres Mario, puis pour augmenter la difficulté, puis là ça commençait à pas bien aller.
Moi, il y a un de mes souvenirs de jeunesse qui était sur Super Mario RPG, sur la Super Nintendo, justement. Est-ce que tu y avais aussi joué à ce jeu-là? Parce que, mine de rien, la franchise Nintendo avait pris quand même un risque. Là, on passait d'un platformer de gauche à droite. Hein, on rentrait dans un jeu qui était 3D, qui allait chercher des mécaniques de RPG avec une histoire. Est-ce que tu y avais joué à ce jeu?
Oui, tout à fait. Puis c'est vite devenu un de mes jeux préférés. Là. Malheureusement, pour X raisons, j'y avais joué en location parce que mon club vidéo me permettait de louer des jeux, puis j'avais loué la cinquantaine de jeux. J'avais fait le tour de la cinquantaine de jeux, mais celui-là en particulier, ben, il a fallu que je le loue plusieurs fois là, pour être capable d'arriver à un niveau décent, là, disons. Puis c'est après ça que plus tard, aujourd'hui, en émulateur, ben là, je peux continuer à jouer. Ce qui est la beauté de la chose.
Tout à fait. On n'arrête pas la nostalgie. Entre aujourd'hui où je recommence l'émission de The Kiwi et des Nerds, le petit retour dans mes souvenirs que tu me fais faire aussi, je me rappelle justement qu'à l'époque où les super clubs vidéo étaient encore communs dans les rues, j'avais un... Moi et mon père, on avait un jeu de golf sur la PlayStation qu'on aimait jouer au bout. Puis je crois qu'on l'avait tellement loué qu'on avait été capable de prendre une entente avec le magasin comme de quoi qu'on allait finalement l'acheter parce qu'on l'avait loué, je pense, pendant un an de suite.
Wow!
Ah, wow! Ils nous ont dit à Stadia, achetez-le.
Oui, c'est incroyable. Surtout qu'à l'époque, les jeux Super Nintendo, entre autres, c'était dans les 80$. Puis si on remonte dans le temps, 80$, c'était de l'argent comparé à aujourd'hui. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est des peanuts, mais à l'époque, 80$, c'était énorme. C'était beaucoup. Puis c'est ça que je trouve quand même intéressant dans un sens, c'est que les prix des jeux n'ont pas monté, n'ont pas suivi tant l'inflation. C'est encore un 80$ si tu veux un jeu chez Nintendo, entre autres. Mm-hmm. Donc, quand les gens disent « Ah, c'est cher », oui, mais avez-vous connu les débuts où ce que, à l'époque, 80$, c'était beaucoup d'argent de votre poche, là?
Ouais, ben moi j'étais trop jeune pour me soucier de l'argent à l'époque, mais est-ce que tu pourrais me faire le rappel, Mick, 80$ à l'époque, qu'est-ce qu'on était capable de s'acheter avec ça comparativement à aujourd'hui?
Oh mon Dieu!
Si t'es capable de t'en rappeler.
Ben, une location vidéo, c'était 3,75$ à l'époque. Je pourrais pas vraiment vous dire, mais le salaire minimum était même pas à 10$. Là, donc, quand tu travailles, t'sais, ça te prend plus de 8 heures de ta vie pour te ramasser un jeu vidéo. Là, ça commence à être beaucoup.
Ça commence effectivement à faire beaucoup.
Donc, c'est ça. Et puis... c'est ça, j'ai rapidement fait le tour des jeux vidéo qui se présentaient à moi, à mon club vidéo. Et puis, par la suite, est venu mon premier ordinateur, évidemment. Premier ordinateur dit, on met des jeux dessus.
Bien sûr.
Évidemment. Donc, c'était dans la bourrée où que le gouvernement voulait que tous les étudiants aient des ordinateurs. Mais la première vague, disons, parce que peut-être toi, t'as connu une autre vague de ça, là, de
j'ai
près.
J'ai connu beaucoup de vagues. Oui.
Bon, on est dans le sujet, on est très contemporain en parlant de vagues aujourd'hui. Donc, c'est ça, donc c'était un Pentium 150. Donc, la force de ça, n'importe quel de vos cellulaires bat la force de cet ordinateur-là. Là. Donc, et puis, on installait des jeux qui venaient en démo. On avait pas d'argent pour acheter des jeux, donc on installait beaucoup de démos de jeux. Donc, j'ai essayé beaucoup de jeux. Puis c'est assez frustrant, un démo, comme tu le sais, ça te laisse sur ta faim.
Oui, hein. Ils veulent que t'achètes pour ça. Ils veulent absolument que tu l'achètes.
Puis un jeu iconique, où ce que là, encore aujourd'hui, j'en démarre pas, mais c'est Diablo 1. Le premier Diablo. Ça a été assez incroyable parce que ils ont révolutionné le genre. Donc ils sont passés non pas d'un RPG avec beaucoup de texte puis beaucoup d'histoire puis beaucoup de customisation du joueur, mais d'un RPG où ce que tout de suite en rentrant tu peux jouer, tu peux commencer à slasher des monstres.
Hack and slash.
Exactement. Donc puis avec l'effet évidemment de loterie, à chaque fois tu tapes un monstre, il y a de l'argent qui sort. Mm-hmm. À chaque fois tu ouvres un coffre, est-ce que je vais trouver l'objet qu'il me faut pour progresser au prochain niveau?
Le précurseur des loot box.
Exactement. Donc, ce jeu-là, et puis par la suite, évidemment, je me suis intéressé à tout ce qui était plus RPG, donc la série des Baldur's Gate, entre autres, parce que moi aussi, comme toi, je suis un maître de Donjons Dragons depuis plusieurs années. Mm-hmm. Donc, forcément... je sais pas toi comment tu vis ça de pouvoir vivre une game de donjon dans un jeu vidéo.
Juste avant, je vais expliquer parce que certains auditeurs savent peut-être pas ce que c'est Baldur's Gate. Baldur's Gate, c'est un jeu qui émule la sensation des jeux de rôle sur l'ordinateur. Je crois qu'il est aussi sur console, dans le style de Divinity 2, qui est plus récent. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de Baldur's Gate parce que le 3 sort bientôt. Mais c'est ça. Moi, je me rappelle la toute première fois que j'ai joué à un jeu des studios Larian. En fait, c'est assez récent. C'était l'an passé. C'était Divinity 2, justement.
Oui.
Puis c'est quelque chose de quand même assez fou, parce que quand on est maître du jeu, dans sa gang d'amis, très souvent, c'est un rôle qu'on garde pour la vie. On est celui qui est le maître du jeu, et être un joueur, ça me manquait. Sauf que, ben, forcément, avec le contexte sanitaire actuel, ben, trouver des parties, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple. Fait que je m'étais lancé sur Divinity 2, puis je dois avouer que c'est rafraîchissant de pouvoir recommencer à être un joueur, puis d'explorer, puis de pas savoir ce qui va se passer, parce que quand t'es un maître du jeu, il y en a, ben, il y a des surprises dans la mesure où tu sais pas ce que tes joueurs vont faire.
Exact.
Mais il y a plus de surprises par rapport à l'histoire, parce que tu sais ce qui va se passer, c'est toi qui l'as écrit. Donc c'était ça avait été une très belle surprise pour moi que de découvrir les jeux des studios Larian.
Excellent. Ben justement, moi, quand je suis maître de jeu, ce que je fais, c'est que j'écris les grandes lignes, puis je me laisse surprendre par ma propre créativité. Donc, j'écris rien. Et puis, mais bref, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était enfin, je pouvais voir, ça avait l'air de quoi, d'un Magic Missile, tu sais. Oui. Enfin, je pouvais voir une boule de feu, ça s'étend jusqu'à combien, ça fait combien de dégâts, etc. Donc, ça mettait des images sur ce que je m'étais toujours représenté dans ma tête. Mm-hmm. Donc, c'était un grand pouvoir du jeu vidéo.
Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités.
Eh oui.
Il fallait que je la place. Ben justement, tant qu'à être dans le sujet, les jeux de rôle, c'est quelque chose dont on parlera aussi après la pause, mais d'ici là, on peut commencer un petit peu, se faire une mise en bouche. Ta première expérience avec les jeux de rôle, Mick, toi, oui. Ça ressemblait à quoi?
Ça ressemblait à quoi?
Quel âge avais-tu?
Oh, je devais avoir 10-12 ans.
On pose des vraies questions.
10-12 ans, puis c'était mon frère, 2 ans plus jeune que moi, qui s'était intéressé à ça. Il avait vu ça chez Kerouac, des jeux de Donjons et Dragons, première édition. Puis il s'était intéressé à ça, puis mes parents lui avaient acheté ces livres-là pour Noël et sa fête, puis c'était des livres encore assez dispendieux à l'époque, là, parce qu'il n'en vendait pas beaucoup, donc c'est sûr, le prix était quand même assez cher. Puis il nous a fait une soirée comme ça à mon père et à moi. Puis moi, je me souviens, j'étais un voleur, puis mon père était un magicien. Puis moi, je voulais voler tout. C'est le premier réflexe ouais. De joueur. Je me dis, je suis un voleur, je vole. Là,
ouais, on comprend pas encore que pour aller chercher l'appréciation maximale du jeu, c'est important d'aller faire ce genre d'événement-là par petite dose. Si on est tout le temps en train de cambrioler, ça enlève le suspense puis l'effet tragique.
Puis toi, ta première fois?
Hey, ma toute première fois, le moment où j'ai perdu ma virginité en jeu de rôle, je crois que c'était à l'école secondaire, à l'entre-classe où j'étais, qui d'ailleurs aujourd'hui, j'anime une entre-classe qui est dirigée par celle qui était l'assistante de celui qui m'a fait faire la toute première partie, fait que ça avait été quand même assez fou de la revoir et de travailler avec elle, alors que à l'époque j'étais un de ces jeunes, mais ça avait été justement dans cette entre-classe-là. On avait fait une partie, je crois que c'était des pirates. Donc on était dans un bateau pirate, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait Donjon Dragon, puis j'étais un petit peu le stéréotype qu'on se ferait d'un joueur de jeu de rôle à l'époque. T'sais, j'étais pas hyper social, je parlais pas beaucoup. Puis quand je parlais, j'étais tellement gêné que c'était pas nécessairement les bons mots qui sortaient. Ça ressemblait plus à « je peux-tu jouer? » mais ça avait été une expérience qui m'a marqué à vie. C'est aujourd'hui mon métier. On avait été 5 joueurs, puis la game en tant que telle, c'était pas tant ça qui m'avait happé. L'histoire était le fun, mais c'était surtout les interactions entre les personnages. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, parce que j'ai aussi du milieu du cinéma, c'est les interactions entre les personnages, c'est l'évolution qu'ils vont vivre. Oui. Et faire du jeu de rôle, c'est le prétexte parfait pour ce genre de situation-là. Puis je crois aussi qu'à l'époque, Oblivion était sorti. Puis ça, c'est ça, je le voyais vraiment comme je joue à Oblivion, sauf que cette fois-ci, ben, je peux pas aller chercher de guide sur Wikipédia pour me dire « Ah, telle épée est à tel endroit, il y a tel truc qui est à tel endroit. » Non, là, c'est vraiment, c'est tout de l'imaginaire. Je me base sur le maître du jeu, qui est un adulte qui, lui, a des compétences là-dedans, qui connaît ça. Puis, ben, tout était une surprise. Il n'y avait pas personne qui pouvait me divulgâcher. C'est oui. Le mot français de spoiler. J'adore ce mot. Il n'y avait pas personne qui pouvait me divulgâcher la surprise. Puis c'était juste... C'était mon petit moment à moi. Là. À chaque semaine, lorsque j'y allais, ben, je vivais une expérience que personne d'autre avait vécue, hormis les gens avec qui j'avais joué. C'est irremplaçable.
En effet. En effet, surtout que... comment dire... Il y a place à improvisation énormément dans le jeu de rôle. Puis quand t'as un maître de jeu puis des joueurs, qui ont une chimie entre eux. Il y a comme une improvisation qui peut s'installer, puis c'est de la création, non pas juste du maître du joueur, de mm-hmm. joueur, mais de tout le monde.
Ah, c'est l'aventure des joueurs, oui, oui. surtout et avant tout. Là. Moi, j'en parlerai plus après la pause, mais j'ai souvenir d'une partie où je m'attendais à ce qu'ils aillent rencontrer le grand méchant, qu'ils se battent contre lui, qu'ils fassent un combat, qu'il y ait deux, trois répliques épiques. Puis finalement, un des joueurs s'est complètement entiché d'un des personnages qui était dans le camp des méchants, justement, a décidé de l'appeler, lui dire « Bon, ben, je vais dénoncer tout le monde parce que je suis amoureux de toi. On est à tel endroit, telle place, viens nous arrêter. » Puis la game a complètement déraillé. Sauf que c'est ça qui est excitant avec le jeu de rôle. Oui. C'est que tu as une attente par rapport à quelque chose et finalement, ça part complètement en cacahuète. C'était juste magique.
Oui, oui, tout à fait.
C'est pour ça que c'est le fun d'avoir aussi des joueurs qui ont pas nécessairement les mêmes goûts que toi parce que ça te force aussi à sortir de ta zone de confort. Puis je pense que c'est important en tant que maître du jeu, ça.
Oui, tout à fait. Et puis, je sais pas si on a le temps, j'ai un petit quiz pour savoir si tu serais un bon développeur de jeux vidéo.
Vas-y donc.
Si c'est pour toi. Donc,
vous
c'est
pouvez aussi le faire avec nous, chers auditeurs.
Oui, à la maison, c'est humoristique, évidemment. Et puis, c'est 10 petites questions comme ça. Donc, la première va comme suit. Combien de temps es-tu capable de passer devant un écran d'ordinateur? Donc, A. Une heure après, je vais chiller sur Netflix. B, une journée de travail de 8 heures après, je vais chiller sur Netflix. Puis C, toute ma vie, parce que même quand je chill sur Netflix, c'est sur mon ordi.
C'est ça que j'allais dire.
Ouais, toi, c'est C. OK.
Tout se passe sur l'ordinateur de nos jours.
On continue, numéro 2. Quand vas-tu demander de l'aide quand tu es mal pris? A, aussi souvent que possible, car je n'ai jamais été scout. Ah, bon. B, quand je suis vraiment bloqué, genre incapable de sauver la princesse dans le dernier Mario. Ou C, pratiquement jamais, j'aime mieux passer une semaine à me casser la tête à trouver la réponse par moi-même.
Je ne fais pas partie de ces élus qui ont fait les scouts plus jeunes et donc je vais devoir répondre C.
C, exactement. Donc, quand on fait du développement de jeux vidéo, surtout indépendant, on est seul, donc il faut vraiment trouver les réponses par soi-même. Une chance, il y a des communautés puis Google qui nous aident. Quand abandonnes-tu un projet? A, quand c'est trop difficile, j'aime quand c'est difficulté Candy Crush au niveau tutoriel. B, quand ça fait un bon moment que je galère. Ou C, abandonner, je ne connais pas ça.
Ça va être définitivement C. Pour ceux qui me connaissent, mes jeux préférés sont les jeux From Software, dont notamment les Dark Souls. La difficulté, c'est mon anane.
Évidemment, quand tu es tout seul à faire un jeu vidéo, ben il faut que tu persévères à un niveau. Je pense que c'est une des qualités de base. 4. Mm-hmm. Combien d'heures joues-tu à des jeux vidéo? A, une heure par semaine à Candy Crush. B, 10 heures par semaine, j'en fais presque un boulot à mi-temps. Ou C, le plus possible, après tout, le sommeil, c'est une invention complotiste pour nous faire perdre du temps de gaming.
J'adore, il faut que tu reviennes la semaine prochaine, Nick. Je vais y aller avec les grands complots, cette actualité.
Oui, OK, parfait. Ben évidemment, plus que tu es un gamer, plus tu vas être capable de faire des jeux vidéo parce que tu vas avoir compris les mécaniques de base et tu vas avoir compris comment ça fonctionne, mais surtout l'essence d'avoir du plaisir dans le jeu vidéo. Donc, à 5, si on a le temps, ça va être à 5.
Il nous reste encore une minute.
Parfait, 5. Où tu te vois dans X années? Hey, on dirait que je te passe en entrevue pour le job. Vision, le super-héros de Marvel. B, j'arrive à planifier jusqu'à mon prochain rapport d'impôt. C, j'ai des plans pour 3, 5 à 10 ans à venir.
Je demande de l'aide de l'assistance. je sais pas quoi répondre.
En effet, quand tu construis un jeu vidéo, il faut que tu sois capable de jongler avec des choses abstraites et de voir et de planifier des phases de développement pour arriver à un produit fini. Là, je vois que tu regardes beaucoup le temps, donc je garderai mes 5 autres points pour la prochaine fois.
Tout à fait. Donc, je vais en profiter pour mentionner à nos auditeurs qu'après la pause, je vais parler plus en longueur donc de l'univers du jeu de rôle, notamment de l'impact que ça a positif chez les jeunes, en quoi ça va aider à notamment éviter le décrochage scolaire, je l'ai vu de mes yeux vus, et l'impact que ça va avoir aussi chez certains enfants qui ont des troubles de comportement ou qui ont un autisme léger. Wow. Donc, si tu veux avoir le mot de la fin avant la pause, Mick, je te le donne.
Le mot de la fin, c'est si tu hésites à faire des jeux vidéo, fais-en. Lance-toi, vas-y. puis au pire, ça arrivera pas à un produit fini, mais souvent, c'est le trajet qui est la plus belle expérience.
Et le pire qui puisse arriver, c'est qu'on s'améliore. Sur ce, je vais donc nous envoyer à la publicité.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Semblerait-il que les publicités sont moins longues que dans mes souvenirs. Donc, on est déjà de retour suite à ce petit spot publicitaire. Vous m'excuserez, première fois à la console, je crois avoir fait une petite erreur quelque part. On va donc lancer le jingle de retour de pause.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à HS94.3.
Donc, on est de retour de la pause. Si tu souhaites, tu peux aussi terminer ton questionnaire, mais il restait 5 questions et j'ai bien envie de voir si je serais en mesure de faire du jeu vidéo.
Parfait. Donc, il nous restait 5 questions. 6, aimes-tu apprendre? A, oui, tant que c'est sans effort comme d'écouter un téléachat. B, oui, j'y passe une heure ici et là à apprendre sur certains sujets généraux. C, oui, je passe environ une heure par jour à apprendre de nouvelles choses sur des sujets variés.
Je répondrai encore C, des sujets variés.
Oui, tout à fait. Donc, quand on fait du développement de jeux vidéo, à moins d'avoir une équipe, mais dans le début, tu n'en as pas d'équipe, il faut que tu t'intéresses à toutes les étapes. Donc, ça va t'amener à apprendre des choses variées. Autant sur la promotion, entre autres, qui est excessivement importante, et d'autres sujets. Donc, 7. Pratiques-tu une discipline artistique? A. Oui, j'essaie de terminer le niveau tutoriel de Candy Crush. B. Oui, je m'adonne à d'autres formes artistiques de temps à autre. C. Oui, je pratique régulièrement d'autres formes artistiques.
Serais-tu un grand joueur de Candy Crush par hasard, mec, ou connaîtrais-tu quelqu'un? Peux-tu me dire où est-ce que Candy Crush t'a fait mal?
Dans plusieurs sens. En ce sens, Candy Crush est excellent en soi, mais j'ai déjà été un petit peu dépendant à Candy Crush, donc je me suis enfin sorti de cet envers des bonbons qui s'entrechoquent.
La dépendance aux jeux vidéo, c'est très sérieux.
Oui, tout à fait.
Donc, je vais y aller avec la réponse Candy Crush, parce que sinon, je vais tout le temps répondre C.
Ah, OK. Mais peut-être que si tu réponds toujours C, c'est que t'as le profil pour faire des jeux vidéo.
Ben, c'est sûr et certain que, aussi, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très vaste, qui est très large. On le sait, notamment, plus t'en parles, plus j'ai l'impression que ça va ressembler aussi au début que j'ai eu dans le milieu du cinéma, où il y a tellement de choses que tu peux faire que c'est sûr et certain que tu vas y trouver ton anane à un moment ou à un autre dans l'histoire. Ce que je sais du jeu vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de codes, en général. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins pour moi. Mais la création de jeux vidéo, d'histoire, de scénarisation, de réalisation, ça, c'est des choses qui définitivement m'intéresseraient à faire un jour. Puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens aussi.
Tout à fait. Moi, j'ai choisi la voie de travailler seul pour l'instant et parce que je peux combler sensiblement tous les postes, dont la programmation, parce que je me suis mis intensément à ça. Mais en effet, l'idéal, c'est d'avoir des gens qui travaillent avec toi. Comme ça, ça te décharge des responsabilités, mais ça t'apporte aussi un caractère à ton jeu que tu n'aurais jamais eu si tu avais juste travaillé seul.
En effet. D'ailleurs, est-ce qu'il te restait encore des questions à ton questionnaire?
Oui, il en restait 3, mais on peut y aller vraiment très, très vite.
Ouais.
Au lieu de vous donner les choix de réponse, je vais juste poser mes questions puis dire ce que j'en pense sur la chose. Donc, 8, la programmation et les logiciels, ça vous dit quoi? Donc, forcément, faut que tu t'intéresses à l'informatique si tu veux programmer. C'est comme la base. 9, es-tu bon avec les concepts et l'abstraction? On oublie souvent que développer un jeu vidéo, c'est comme développer un jeu de plateau. Donc, c'est la même chose. C'est comme faire une game de Donjons & Dragons aussi. Ça demande une capacité à s'orienter dans des concepts et des idées abstraites. Et 10, le taux promotion, ça te dit quoi? J'en ai glissé un mot tantôt. Mm-hmm. Si tu es un développeur indépendant, tu n'as pas le choix de faire toi-même ta promotion, ton auto-promotion. Donc, si tu te lances là-dedans, soit trouve-toi quelqu'un qui est bon ou soit intéresse-toi à ça.
Le volet communicationnel.
En effet.
Donc, prochaine question, donc.
Donc, les questions, ben, je les ai toutes passées. Donc, forcément, si tu as eu plus de A, ben retourne jouer à Candy Crush. Si tu as eu des B, bon, tu pourrais le faire, mais probablement que les choses comme Netflix vont t'empêcher de créer des distractions. Puis si tu as eu une majorité de C, ben continue, mon ami, parce que tu es sur la bonne voie pour développer des jeux vidéo. Apprends juste à coder un peu, puis tu vas voir, c'est avec les communautés qui existent, là, c'est rendu, somme toute, simple aussi avec les programmes qui existent, là, les logiciels.
Ben, c'est sûr et certain qu'on n'est pas comme à l'époque où, lorsque tu voulais créer du jeu vidéo, la culture geek est aujourd'hui très, 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 très large, variée. À peu près tout le monde touche à ça. On a juste à penser notamment aux films Marvel. Là. C'est des films très grands publics qui sont des films de super-héros de culture geek. On remonte à il y a 20 ans. On n'a pas tout ça. Là. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans les moments les plus propices là, pour pouvoir se lancer dans quelque chose qui est de la culture geek, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le Donjon Dragon ou autre.
Tout à fait. Puis,
les grandes communautés.
Souvent, les gens ont du temps ces temps-ci à cause des mesures sanitaires, entre autres, mais des congés parentaux, des choses comme ça. Donc, quand vous avez du temps, vous pouvez apprendre des nouvelles choses. Puis apprendre à programmer, c'est pas si compliqué que ça. C'est un langage. Hein. On oublie souvent ça que c'est un langage. Oui, c'est des mathématiques, mais c'est d'abord et avant tout un langage. Entre autres, si il arrive telle chose, fait telle chose. Donc, c'est un langage.
Tout à fait. Mais c'est un langage aussi qu'il faut avoir la volonté d'apprendre.
Oui.
Il y a des gens qui sont polyglottes, il y a des gens qui sont à l'aise avec le fait de parler une seule langue toute leur vie, mais je crois que le plus beau langage de tous, et ça sera ma transition pour aller vers l'univers du jeu de rôle, le plus beau langage de tous, c'est le langage de la psychologie. Donc, pour en venir sur l'univers du jeu de rôle, Donjons et Dragons, mais aussi plein d'autres systèmes, comme Call of Cthulhu, des systèmes de Game of Thrones, des systèmes du style tel que Shadowrun, il y a quelque chose d'assez incroyable avec ces univers-là, dans la mesure où, lorsqu'on lit, par exemple, le manuel de la 5e édition de Donjons et Dragons de Wizard of the Coast, une des premières choses que tu vas voir sur les pages, c'est qu'ils vont te dire que ce manuel-là, c'est un guide. Une vérité sainte absolue où on doit se dire, bon, ben là maintenant j'ai deux épées sur mon dos, mais c'est pas possible parce que je suis à 25,6 kg, mais je suis un gobelin, donc je peux. Non, c'est quelque chose qui est. On pourrait donner la même aventure à six personnes différentes, puis il y a six personnes différentes qui nous donneraient six versions complètement séparées de cette aventure-là, parce que personne n'aurait vécu la même chose. Tout le monde aurait vécu à peu près les mêmes événements, mais. Une aventure pour avoir déraillé complètement parce que un de nos joueurs a appelé le grand méchant final, ou alors l'aventure peut avoir été railroad, qu'on va dire en anglais, donc rester parfaitement sur les rails, parce que les joueurs, ben, eux, ce qui est leur fun, c'est de rester constamment concentré dans le jeu. Et il y a d'autres joueurs qui pourraient ne pas avoir vécu l'histoire du tout, parce que, et c'est correct aussi, pour eux, Donjons & Dragons, c'est un prétexte aussi pour revoir leurs amis.
Oui.
Et justement, dans une période où on est de plus en plus isolé, on se tient de plus en plus loin les uns des autres, et c'est même malheureusement encouragé pour les bonnes raisons.
Oui.
Je crois que c'est de plus en plus important d'avoir ce genre d'activité telle que le jeu de rôle. J'en parlais tout à l'heure, je suis maître de Donjons et Dragons à temps plein. Et dans mon métier, une des choses que j'ai remarqué, je travaille beaucoup avec des jeunes dans des écoles. L'une des plus belles récompenses qu'on peut pas avoir, je crois, c'est de sentir qu'on a fait la différence dans la vie de ces jeunes-là. Au même titre, les professeurs vont aussi faire de très, très grandes différences dans leur vie. Là. C'est pas parce qu'un milieu fait une belle différence que d'autres milieux peuvent pas le faire. Sauf que ce que je constate, c'est que puisque le jeu de rôle, c'est surtout une activité qui est ludique, c'est quelque chose où on a intérêt à s'en servir intelligemment. Je vais d'ailleurs citer un professeur de l'école de Florence en Lausanne qui s'appelle Florence Kisch, qui disait que cette approche pourrait redonner l'envie d'apprendre à des élèves qui auraient perdu motivation ou confiance en eux, notamment les jeunes ayant subi de nombreux échecs scolaires. On se met en contexte, t'es un jeune, l'école c'est pas nécessairement fait pour toi, c'est pas nécessairement quelque chose que t'as envie de faire toute ta vie, tu vas peut-être aller dans un DEP, tu vas peut-être aussi complètement changer de direction. C'est sûr et certain que c'est pas intéressant de rester à l'école, sauf que quand t'as des activités du style donjon dragon ou alors des activités. Bon, là, maintenant, parascolaire, là, maintenant, les activités où on bouge beaucoup, y en a moins. Donc, Donjon Dragon, c'est un bon exemple en ce moment, je crois. Ben, d'avoir ce genre d'activité-là, ben, t'es un jeune, t'as de la difficulté à l'école, puis une fois par semaine, tu te présentes, tu vois une gang d'amis qui ont tous la même passion que toi, qui sont tous là pour avoir du fun. Le maître de jeu, lui aussi, veut que vous ayez du fun. Puis, tu viens d'avoir un gros examen, 50%, tu te sens pas nécessairement bien dans ta peau, sauf que pendant une heure, deux heures, tu peux décompresser, passer à autre chose, commencer à vivre des expériences, des aventures avec tes amis. Puis c'est quelque chose qui, on le voit notamment avec les films, je crois que vous avez tous eu un ou une chair et tendre qui a pleuré devant certains films. Ce qui est fort avec la fiction, c'est qu'il y a un sentiment d'empathie réel qui se crée. Et encore une fois, je vais citer... Neil Lederland, qui dans son livre La fiction crée de l'empathie, donc je suis en train de faire une traduction libre car son livre est en anglais, il mentionne que parce que tout comme la façon dont une histoire effrayante peut nous donner le frisson par procuration d'être poursuivi par un maniaque mort-vivant, d'autres histoires pourraient nous mettre dans d'autres situations que nous n'avons jamais connues. Ce que ça fait d'être une jeune femme pour les lecteurs masculins. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un handicap pour ceux qui ne souffrent pas d'une telle condition? À quoi ressemble une minorité ethnique ou religieuse qui essaie simplement de se frayer un chemin dans un monde qui fait de son mieux pour garder sa botte fermement sur sa tête? Dans des situations comme celle-ci, votre cerveau ne peut pas faire la différence entre lire sur un personnage et se faire un ami de chair et d'os. Pas de manière délirante, mais dans le sens où l'exposition aux personnages et l'exposition aux gens peuvent avoir des effets similaires sur notre cerveau. Donc, le fait de faire vivre à ces jeunes-là des réussites dans l'univers du jeu de rôle, ben, même s'ils savent que ça s'est passé dans un contexte de fiction, selon toute vraisemblance, ces études-là démontrent que la réussite qu'il va avoir vécue, son cerveau va l'avoir vécue comme n'importe quelle autre réussite. Mm-hmm. Puis ça, c'est bon parce que ça va leur amener à avoir confiance, plus confiance en eux. Ça va aussi les amener, parfois, en ayant cette espèce de sentiment par procuration. On joue un personnage. Ben, moi, j'étais un jeune extrêmement gêné à l'époque. Oui. Sauf que, éventuellement, à force de jouer un personnage qui, lui, devait être un peu plus charismatique, qui devait parler, de me faire sortir de ma zone de confort, mais pas en étant moi, en étant quelqu'un d'autre, ben, c'est des compétences que j'ai fini par acquérir dans ma propre personnalité, au exact. Final.
Tout à fait.
Et ça, c'est quelque chose de quand même assez fou de se dire qu'on peut avoir une activité qui, à la fois, va éviter l'isolement, va permettre à un jeune de s'épanouir, puis va aussi lui permettre de se divertir, puis d'oublier les problèmes de la vie quotidienne. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais...
Oui, tout à fait. Moi, comme toi, j'ai été maître de jeu aussi dans des écoles en parascolaire, donc j'ai connu ça un peu. Puis c'est toujours intéressant de voir... comment aussi les jeunes vont chercher des succès qu'ils n'ont pas dans leur vie. Si ta journée est passée, puis tu n'as eu que des échecs, tu t'es fait peut-être te crier dessus à la maison ou intimider à l'école ou peu importe, tu arrives à ta partie de Donjon Dragon et puis tu deviens un elfe qui tire à l'arc, qui ramasse des trésors, qui a combattu un dragon, etc. Ça te permet de vivre des succès. Puis chacun des succès, comme tu le disais, que ton cerveau vit, et il ne voit pas la différence entre de la fiction ou de la réalité, ce qui fait en sorte que tu l'as réellement vécu. Mm-hmm. Puis ça peut, comme tu dis, changer ta vie, ta journée, du moins au minimum.
Au minimum.
Mais évidemment, à répétition, ça change ta vie.
Puis aussi, l'avantage du jeu de rôle, comparativement à, par exemple, des jeux vidéo, c'est que ben, tu as une interaction sociale qui est réelle. Bon, souvent, le jeu de rôle, c'est en présentiel. Et ces interactions-là, ben, c'est quelque chose que tu n'as plus nécessairement quand tu as des jeux vidéo. Les jeux vidéo, ben, tu vas pouvoir jouer en ligne, tu vas pouvoir jouer dans le confort de ton salon avec un sac de chips, sauf que quand tu fais une partie de Donjons et Dragons, ben, c'est un peu un événement. C'est un peu oui. comme si tu disais, bon, ben, telle journée, telle heure, tel endroit, on se réunit tous ensemble, apporte les chips, apporte la nourriture, etc. Oui. Puis c'est vraiment un événement où tout le monde se rassemble autour de la table, puis là, on est tous prêts à jouer pour une même activité. Puis moi, dans mon cas, les cellulaires, c'est légèrement autorisé pendant les parties. Lorsqu'on veut faire des vérifications, des fois, je vais faire des parties de jeux de rôle qui vont se passer dans l'univers de l'appel de Cthulhu, donc Call of Cthulhu. Mm. C'est un jeu qui se déroule dans les années 1920. Je suis pas un historien expert, donc une fois de temps en temps, on va peut-être aller googler des informations. Sauf que justement, encore une fois, ben, on en apprend sur les années 1920 en jouant à ce jeu-là parce qu'on veut tellement avoir une fidélité historique que ben on va chercher la petite coche supplémentaire juste pour voir, bon ben là, mon histoire se déroule à Paris en France, est-ce que la Tour Eiffel est construite en 1920? Mm. Ben, la réponse c'est oui, la Tour Eiffel est construite en 1920, mais j'étais pas nécessairement au courant de cette information-là à l'époque. Là.
Oui, tout à fait. Donc, en plus des acquisitions sociales dont tu parles, il y a évidemment des acquisitions en information, en connaissance. Puis, je dirais aussi en compétences, en ce sens que... je sais pas où aller avec ça, mais pour moi, c'est tellement merveilleux que je ne peux qu'en parler en bien, mais... moi, personnellement, j'ai rencontré ma femme dans un contexte Donjon Dragon. Oui. J'en ai fait un métier comme toi un certain temps. Donc, les gens qui me disent, des années par après, qui connaissent pas les jeux de rôle, puis qui me disent, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, etc. Puis ça a été mon gang-pain un certain bout de temps. Donc, le jeu de rôle... parfois a été démonisé, hein?
Oui.
Mais apporte tellement de choses que aujourd'hui c'est sûr que je serais pas là en train de parler devant un micro si j'avais pas pratiqué à parler devant une table de joueurs et à animer puis à incarner autant de monstres et de personnages que j'ai fait.
Non, effectivement, puis c'est quelque chose que on a tous déjà vécu. On connaît tous le mime et donc je vais le lancer. On connaît tous ce mime. Yeah! Donc Homer Simpson qui crie nerd à des... Je me rappelle plus de l'épisode exactement, mais c'est Homer Simpson qui crie nerd à quelqu'un. Hein?
Oui, je me souviens plus non plus de l'épisode, mais on reconnaît bien Homer.
Il va falloir qu'on se réécoute les Simpsons un jour.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui, à l'époque, effectivement, avait été un peu démonisé, même que je crois avoir souvenir d'avoir lu un article, il y a peut-être de ça 15 ou 16 ans, qui disait que Donjons et Dragons, c'était sataniste, que ça encourageait le décrochage scolaire. Tu sais, toutes les affaires qui aujourd'hui, on sait que c'est non seulement pas vrai, mais c'est complètement l'inverse.
Exactement.
C'est fou à quel point il y a une peur parfois de l'inconnu qui va se manifester, même dans des choses qui sont innocentes, fragiles, qui sont juste ludiques. Puis je suis vraiment content de voir qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont populaires, en tout cas, j'ai l'impression de constater ça, les jeunes qui sont populaires, ben, ils vont aimer les mangas, ils vont faire du jeu de rôle, ils vont faire ce genre d'activité-là qui, à l'époque, quand tu le faisais, ben, t'étais considéré un peu plus comme dans la gang des exclus, pour faire référence à un excellent documentaire d'un réalisateur qui est ici avec nous en ce moment. et justement, c'est fou parce que cette activité-là, c'est une activité au final qui est rassembleur.
Oui.
Moi, certains de mes meilleurs amis, en fait, je les ai rencontrés en faisant du Grandeur Nature ou en faisant du jeu de rôle. Puis c'est des amitiés de longue date, là, 10, 12, 13 ans. Toi, t'es avec ta femme depuis combien de temps maintenant, Mick?
Je sais pas, faudrait y demander, mais 15-16 ans, à peu près. Les gars, on compte pas ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Là.
Va peut-être y avoir une discussion ce soir en rentrant.
Oh boy, oh boy. Mais oui, 15-16 ans. Puis... vas-y, continue, j'avais une idée, mais ça s'est envolé en pensant à ma femme quand je vais rentrer chez moi.
Ouais, donc ce que j'allais dire, c'était que ce qui est incroyable aussi avec l'univers du jeu de rôle, c'est que moi, j'ai fait des parties pour des jeunes adultes qui sont légèrement dans le spectre de l'autisme. C'est pas nécessairement aisé pour eux d'interagir avec les gens. Sont pas nécessairement faciles à comprendre au premier abord. Puis des fois, ce qui se passe dans ce genre de situation-là, ben c'est que il y a des rôlistes qui eux sont, tu sais, on a de tout dans tous les domaines, sauf que des fois c'est plus difficile de se trouver une partie. Puis moi, ben justement, sa mère m'avait écrit pour me demander si c'était possible que je lui fasse vivre une partie. Puis lorsqu'on a vécu la toute première partie, tu sais, c'est sûr et certain que c'était pas une partie de Donjons et Dragons classique, dans la mesure où il fallait que j'adapte la chose. Sauf que Donjons et Dragons, c'est un univers qui est adaptable. Donc c'est parfait, c'est propice à ça. Et lorsqu'on a fini son heure de jeu, ben il paraît que c'est sa mère qui m'avait écrit ça. Il paraît qu'il était en émoi, il tripait, il parlait de tout ce qu'il avait vécu, la moindre petite affaire, qu'est-ce qui allait se passer la semaine d'après. Puis elle m'avait même mentionné que c'était plus ouvert auprès de moi qu'auprès de son psychologue.
Oh.
Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de se dire que parce que je lui ai offert une activité ludique qui l'intéressait, il m'a peut-être un peu plus parlé de sa vie qu'il parlerait de sa vie à un psychologue, parce que ce qu'elle m'avait expliqué, puis ça reste très important d'avoir ce genre de professionnel-là, parce que moi, je suis pas un professionnel de la psychologie du tout. Faut pas non plus confondre les cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il s'en allait voir sa psychologue, ben, tu sais, il s'attend à se faire un peu psychanalyser, puis on dirait qu'il vient comme se refermer un peu plus sur lui-même, sauf que quand il vient faire cette activité-là, ben, il est là pour passer un bon moment, fait qu'il pense pas nécessairement à créer ce genre de barrière-là que le cerveau se créerait quand t'as pas envie que quelqu'un entre à l'intérieur de ta tête.
Oui.
Puis je trouve ça fascinant. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose... Il y a quelque chose à aller chercher avec ça au niveau de comment est-ce qu'on pourrait aider les jeunes à se développer. Fait que je lance ça pour quiconque nous écoute. Si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés à explorer cela et nous en faire part, vous pouvez nous écrire sur la page des Kiwi et des Nerds sur Facebook ou nous laisser un commentaire ou me contacter directement dans notre messagerie privée. Donc j'en profite pour faire ma petite plug. Qu'est-ce que tu allais dire, mec? J'imagine que tu as retrouvé ton idée.
Oui, on parlait de jeux de rôle qui étaient démonisés puis tout ça. Mais il y a une expression que tu as dit en début d'émission qui est culture geek. Et c'est une expression qui est somme toute relativement jeune en soi, parce que pour qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait un nombre de gens qui s'intéressent à quelque chose, ici au domaine geek. Là.
Oui.
Donc, qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas parler de culture geek parce que, justement, les geeks qui étaient seuls...
C'était une sous-culture, en fait.
Exactement.
C'était quelque chose qui était très underground.
Donc, aujourd'hui, c'est devenu même populaire de dire qu'on est geek puis tout ça, alors que l'origine du mot, c'est vraiment pas valorisant quand on pense à l'origine du mot. Là.
Non, exact. On a juste à penser aussi avec le terme otaku au Japon, qui n'a pas du tout commencé comme un terme valorisant. C'était péjoratif. Puis aujourd'hui, ben, maintenant, il y a des gens qui clament haut et fort qu'ils le sont. Hein.
Oui.
C'est impressionnant de voir à quel point cette culture-là a réussi à se démarquer malgré les préjugés que les gens pouvaient avoir.
Exactement. Puis un bon moyen de s'enlever les préjugés, c'est de l'essayer.
Tout à fait. Donc, si pour nos auditeurs, si jamais vous n'avez encore jamais fait de partie de jeu de rôle, trouvez-vous un maître du jeu, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, et lancez-vous dans l'expérience. La meilleure manière de vaincre ce genre de préjugés-là, c'est d'y jouer. Et ça me fait penser, j'ai une anecdote où j'ai certains jeunes dans une école où je travaille qui s'étaient présentés durant le midi, puis eux, c'était leur première expérience. Oh. Puis quand on... Tu sais, ils m'ont dit par après qu'ils s'attendaient à voir une bande de nerds, peut-être la morve au nez, qui jouent à des jeux vidéo avec leur coke diète.
Wow.
Puis finalement, ils se rendent compte que c'était pas ça du tout. Là, je veux dire, on le verra peut-être aussi la semaine prochaine avec notre chroniqueur Louis, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui car sa copine a attrapé la COVID. Mais l'univers du jeu de rôle, c'est pas exclusif à ce genre de personnes-là qui sont stéréotypées. Je veux dire, moi, j'ai aussi une formation en tant qu'entraîneur privé. Je suis quand même quelqu'un qui est assez sportif, somme toute. Il y a des cinéastes qui font ça. Puis je sais aussi que The Rock, le lutteur, a fait du jeu de rôle à une époque de sa vie. Donc, c'est quand même impressionnant de se dire qu'encore aujourd'hui, même chez les jeunes, on peut avoir ce petit préjugé-là. Puis tout ce que ça prend, c'est une heure entourée des gens qui font du jeu de rôle pour se rendre compte que, c'est des gens comme toi et moi. Puis c'était le fun, t'sais. Il a trippé sur son expérience, puis il continue, puis il m'a demandé des conseils pour créer sa propre partie parce qu'il voulait la faire vivre à ses parents. C'est fort comme émotion.
Tout à fait.
Et donc, sans plus attendre, je vais passer au prochain élément dont on était censé parler. Je crois que notre invité ne pouvait malheureusement pas se présenter. Among Us.
Oui.
Est-ce que tu as fait partie de la folie qui tourne autour d'Among Us, Mick?
J'ai pas le choix depuis une semaine d'en faire partie, en ce sens que j'ai jamais joué au jeu. Écoute, ben, j'ai jamais joué au jeu, mais moi j'ai un garçon autiste, puis lui il a découvert ça sur YouTube, Among Us, puis là il arrête pas de faire en carton des affaires Among Us, puis de jouer à Among Us, puis là faut que je joue avec lui, mais je sais à peu près juste c'est quoi, genre le jeu du loup-garou, je pense, là,
ouais.
À peu près. Puis ça fait qu'on est dans Among Us là, par-dessus la tête chez nous, sans avoir joué au jeu.
Wow! Mais est-ce que lui, il a joué?
Non,
c'est juste, il regarde sur YouTube, il ça le stimule, il a envie d'écouter. Wow.
Ouais. il aime ça, puis il voit les gens parler, avoir du plaisir, il rit, puis pour lui, il se fait des univers Among Us, puis il se déguise aussi.
Wow! Mais c'est un truc que j'avais trouvé intéressant quand il y avait eu, là, quand on était dans le gros de la folie Among Us, où tout le monde voulait y jouer. On a des jeux vidéo qui sont désormais très complexes, qui peuvent durer 70 heures, 80 heures. On a des Skyrim, on a des univers très larges, très diversifiés. Et pourtant, des petits jeux, tu sais, on a eu la phase avec Phasmophobia, Among Us, etc. Des jeux simples, oui. Où tu as un concept du style le jeu du loup-garou. C'est encore des jeux qui peuvent faire des hits de nos jours. Puis ça montre juste à quel point, des fois, avoir cette simplicité-là, juste avoir une petite bonne idée, ben, ça peut révolutionner, là, je veux dire... ça a été joué par des grands let's players, youtubeurs du style de PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye, vous les connaissez. Puis d'ailleurs, j'imagine que c'est avec un de ceux-là que ton garçon a découvert Among Us. Est-ce
probablement.
Que tu sais le nom du youtubeur?
Moi, il est arrivé avec ça un jour, puis on le laisse écouter YouTube, ces choses qu'il veut, donc je ne sais pas d'où ce qu'il a pris ça, mais il reste que comme tu dis, c'est une idée accrocheuse à la base, donc lui, il s'est accroché à ça parce que le concept est relativement simple, puis c'est quand même rigolo, du sens que l'imposteur, ben, il ne faut pas qu'il se fasse découvrir, puis les graphiques sont enfantins aussi, donc ça va chercher, je te dirais que si ça va chercher un garçon de 10 ans autiste, ça va chercher à peu près tout le monde là, comme public cible.
Les graphiques sont enfantins, mais les animations sont quand même... sont pas si violentes que ça, parce qu'ils font beaucoup aussi référence à des films et notamment Alien, il me semble. Mais effectivement, il y a quelque chose dans Among Us qui est simple, qui est enfantin, comme tu le disais.
Oui.
Je sais plus où ce que je m'en allais avec ça. Mais...
Pour moi, enfantin n'est pas un défaut, hein,
non,
en passant.
Loin
c'est,
de là,
c'est une qualité, en ce sens que j'aurais peut-être plutôt dû dire cartoonesque, hein, parce que c'est un univers graphique cartoonesque, avec une mécanique que tout le monde comprend dès le début. Puis c'est ça qui fait, je pense, des jeux vidéo super intéressants pour le plus grand nombre de gens. C'est des mécaniques simples dès le début.
Tout à fait. Puis avec Among Us, moi, j'ai un ami qui joue très, très peu aux jeux vidéo. Il adore le jeu vidéo. C'est quelque chose qui, pour lui, est une passion. Il regarde des let's play et tout ça, sauf qu'il n'aime pas jouer. Il n'aime pas cette interactivité-là.
Oui.
Puis lorsque Among Us a commencé à se faire connaître, ben, il a commencé à y jouer. Puis à force d'y jouer, ben, il a fini par élaborer des tactiques, des stratégies. Vraiment, il s'est mis à fond dans le jeu. Puis c'est le fun parce que des fois, ben, il y a des gens qui ont moins de temps pour apprendre des mécaniques complexes. Par exemple, si on pense aux Dark Souls, c'est sûr et certain que si tu fais du 40 heures semaine, que la fin de semaine, t'as les enfants, peut-être que c'est pas le jeu le plus facile à jouer lorsque tu veux te relaxer. cet univers-là s'est construit autour du fait que le jeu était difficile. Donc, c'est le fun d'avoir des mécaniques qui sont justement enfantines. Puis, on en parle depuis tout à l'heure, mais cette espèce de nostalgie, le retour de The Kiwi Dinners en onde, ou alors notre première jeu vidéo, c'est important de faire appel à l'enfance, d'y retourner une fois de temps en temps, parce que c'est là que tout est magique. C'est là qu'on regarde un film puis on se dit « Wow, c'est impressionnant, comment ils ont fait ça? » C'est là qu'on veut tout découvrir, tout explorer. Et quand on vieillit, j'ai l'impression qu'on perd un peu de cet impact-là, mais c'est important une fois de temps en temps de se faire ce rappel-là. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui a de magique. Le pouvoir des jeux qui ont une grande simplicité.
Exactement. On peut penser, j'en ai parlé à outrance tantôt à Candy Crush, c'est somme toute très simple à apprendre, très, très visuel, très stimulant. Donc, c'est un des défauts quand on commence à être un développeur de jeux vidéo, c'est de vouloir mettre tout dans un même jeu. Puis c'est un peu ce que je vis avec mon projet présentement. Peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois.
Oui, ça serait super intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, je vais devoir prochainement nous lancer dans l'outro de l'émission. Cela va déjà faire bientôt une heure. On va passer au spot publicitaire. Je tiens à te remercier, Mick,
merci
de ta
toi.
Venue. L'émission de The Kiwi et des Nerds, on va être présent tous les dimanches midi avec vous et on a hâte de vous faire découvrir de nouveaux jeux vidéo. Je sais qu'il y a aussi un jeu que j'attends beaucoup qui s'appelle Elden Ring. Pas une suite, mais une suite spirituelle aux Dark Souls qui sont faits par les From Software. Et peut-être même un spécial Saint-Valentin éventuellement où je parlerai de jeux de Dating Simulator, donc des jeux de simulation de drague. Ça devrait être quand même assez amusant.
Finish him.
Donc, est-ce que tu as une dernière parole à nous offrir, mec, une sagesse, une pépite?
Une pépite, lancez-vous. Lancez-vous. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans votre passion. Si vous êtes passionné par quelque chose, faites-le.
Et donc, c'est sur cette parole de simplicité enfantine que nous vous quittons et que nous vous disons à la semaine prochaine pour plus de kiwis, plus de nerderie et plus de chroniqueurs.
Chez 94.3 FM à Québec. Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi.